Monsieur le ministre, chers collègues, chers amis, même s'il s'agit de ma dernière participation au Forum sur la sécurité en tant que président du Conseil des partenaires euro-atlantiques, c'est un grand plaisir pour moi de planter le décor brièvement de nos discussions d'aujourd'hui. Tout au long de ces 5 années et demie passées au poste de secrétaire général de l'OTAN, j'ai accordé une place très importante à nos partenariats et je suis certain que mon successeur, Anders Fogh Rasmussen, fera de même. Une fois de plus, de hauts représentants des pays membres de l'OTAN et des pays partenaires, ainsi que des parlementaires et des universitaires, des représentants d'organisations internationales, d'organisations non gouvernementales et du monde de la presse et des médias sont réunis pour débattre des questions de sécurité présentant un intérêt commun pour tous les partenaires. Ensemble, vous représentez un échantillon important de notre soi-disant communauté stratégique. Et il ne fait aucun doute pour moi que cela contribuera à garantir la réussite de ce forum sur la sécurité, tout comme cela a été le cas lors de nos réunions précédentes à Ohrid et Ohrid. Le Conseil de partenariat euro-atlantique a maintenant 12 ans. Il a d'emblée été conçu comme un mécanisme souple destiné à suivre l'évolution de l'environnement de sécurité. Et en effet, le CPEA a évolué considérablement. Aujourd'hui, il n'est pas seulement un cadre de coopération concrète, il offre aussi un forum vital de dialogue politique entre les alliés et les partenaires. Mais sommes-nous allés assez loin dans notre partenariat et pouvons-nous faire mieux s'agissant d'articuler et de mettre en œuvre la logique du partenariat dans l'environnement de sécurité instable que nous connaissons actuellement? Je voudrais, dans mes observations de ce matin, vous donner quelques indications à cet égard. La période dans laquelle nous vivons se caractérise par des bouleversements internationaux sans précédent et nous confronte par ailleurs à des contradictions sans précédent. La mondialisation continue de faire s'ouvrir les économies, de créer de nouvelles richesses et de relier de nombreuses régions à l'économie mondiale. Et pourtant, nous voyons aussi de plus en plus apparaître l'envers de la mondialisation, car la mondialisation est également le véhicule par lequel sont importés dans nos sociétés le radicalisme, le fanatisme et le terrorisme. L'avancée rapide des technologies de l'information présente un bilan tout aussi ambivalent. Les moyens de communication modernes peuvent être des outils de diffusion de l'information et permettre à beaucoup plus de personnes de participer aux échanges d'idées à l'échelle mondiale. Mais nous constatons aussi que ces mêmes moyens de communication peuvent être utilisés de façon abusive pour propager l'intolérance et la haine pure et dure. Et nous avons assisté aux premières cyberattaques. Les attaques visant l'infrastructure électronique d'un pays sont susceptibles de faire tomber le système économique et financier d'un pays sans un seul coup de feu. Les circuits qui permettent le transfert instantané de fonds ou d'informations par-delà des frontières peuvent également être utilisés par les réseaux criminels pour le trafic de toutes les marchandises imaginables, ou presque, qu'il s'agisse de fonds blanchis, d'êtres humains, de composants de missiles ou de matières fissiles. Certains pays, de la Corée du Nord à l'Iran, bénéficient ainsi d'opportunités sans précédent de réaliser leurs ambitions nucléaires malgré une ferme opposition internationale. Et, Excellences, Messieurs et Dames, les contradictions ne s'arrêtent pas là. Dans certaines parties du monde, des pays optent pour des formules d'association, voire d'intégration, afin de mieux pouvoir relever les défis posés par la mondialisation. Ailleurs, en revanche, les États se désintègrent, sombrant dans l'anarchie, devenant des espaces non gouvernés qui servent de sanctuaires et de camps d'entraînement pour terroristes ou au commerce international des stupéfiants. Autrefois, nous pouvions nous permettre une certaine baisse de vigilance face à ce qui se passait loin de chez nous. Les distances géographiques nous servaient de bouclier. Les océans, les déserts et les montagnes nous conféraient une protection. Mais aujourd'hui, la mondialisation a éliminé une fois pour toutes la notion de sécurité grâce aux distances géographiques. En d'autres termes, la sécurité de tous nos pays dépend de plus en plus des événements qui se déroulent ailleurs dans le monde. So, dear friends, the challenge before us today is clear, if not easy. We need to use the driving forces of globalization to our own advantage. But we also need to tackle the darker side of globalization without compromising globalization's benefits. How? By thinking and organizing ourselves differently than we did in the past. By saying goodbye to the outdated security paradigms of yesterday. And above all, by exploring new approaches of security cooperation, reaching out beyond geographical, cultural, or religious boundaries. NATO has taken this logic to heart. When the Cold War ended, the alliance reached out to its neighbors and worked hard to build closer ties with them. At that time, NATO had to overcome considerable skepticism from many quarters. Not everyone believed that NATO could or should take on this new area of activity. And not everyone understood the importance and the value of a NATO role in helping to create an inclusive, cooperative security structure. While physical walls had fallen, psychological walls were sometimes more resilient. Partnership has proved a very precious idea, because we have been willing and able to push limits. The number of common projects has increased dramatically. Political and military cooperation between allies and partners has constantly intensified. And in NATO-led operations today, partner countries make indispensable contributions. Kazakhstan's vital support for the NATO-led ISAF mission in Afghanistan is just one, but a major example of the enormous strategic value which our partners can offer. Over the years, partnership has also become a two-way street. Partners have taken an active role in its evolution, and they have done so with increasing self-confidence. This active involvement by our partners has made the partnership concept a resounding success. Partnership for Peace and the Euro-Atlantic Partnership Council have nourished a true security culture across the Euro-Atlantic area. It has been a success because we have had a vision to recognize that the world was changing, and because we had the courage to work together to shape that change. Today, we need vision and courage more than ever. If we want partnership to continue to play its important role, we must continue to adapt it to the changing environment. Now, this means first and foremost that the partnership must develop a different working culture. Thus far, our working culture is characterized by a certain caution, even from time to time hesitation, to tackle difficult issues. Sometimes we shy away from having a meaningful, substantial debate, simply to avoid controversy. There might have been good reasons in the past for doing so, when the partnership was still fragile. Today, with the experience of 1.5 decades, we can, I think, afford to go further. And we must realize that partnership is no longer about eliminating residual mistrust left over from the Cold War. No, today partnership has turned into something quite different. It has become a unique instrument to tackle common challenges in an increasingly globalized world. And it's up to us to make the best possible use of that instrument. So the agenda of today's EAPC Security Forum does not shy away from critical questions, but tackles them head-on. The issues that we'll discuss today range from Afghanistan to the Caucasus, and from energy security to Central Asian security. Each of these topics affects NATO allies and partner countries, and so each of them has a strong partnership dimension. And in my opinion, the ambitious agenda of this EAPC Security Forum makes clear that the logic of partnership has not lost any of its relevance as a result of recent rounds of NATO enlargement. Of course, enlargement means that the balance between allies and partners in the EAPC has shifted, and it's also true that these partners are widely spread geographically. But I think there's plenty of life left in our partnership. So it's up to us, NATO members and partners, and representatives from across the strategic community, to ensure that partnership remains vibrant and healthy. And our meeting today will, I'm sure, and I certainly hope, help us in doing just that. Ministers, Excellencies, ladies and gentlemen, it is almost a platitude to state that the challenges of today are too great for any nation to cope with on its own, and that collective action is ultimately more effective than purely national approaches. But it is a truth nevertheless. And that is why, since the end of the Cold War, many nations have made the strategic decision to cooperate with one another. NATO's partnership policy was among the first attempts to draw the right lessons from the end of the Cold War. It has been a resounding success, and that should inspire us all with optimism. If we use the opportunities handed to us by globalization, and if we do that wisely, if we are not afraid to explore new ground and to exploit the full potential of our partnership, we can truly shape events and do not have to be their victims. So let us do that here today. I thank you very much for your attention. And let me then introduce my colleague, but also my friend, Per Stigmüller, the Foreign Minister of Denmark. Thank you very much, Pastik, of having come to the forum. Minister Müller, one of the longest-serving, if not the longest-serving, foreign minister in NATO. Per, it is with great pleasure that I give you the floor.